en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Allons-nous manquer d'eau ? Se battra-t-on pour l'eau au XXIe siècle comme on s'est battu pour le pétrole ou pour l'or ? Telles sont quelques-unes des questions abordées par Bernard Baraquet, directeur de recherche au CNRS, dans la communication qu'il a donnée devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, réunis en séance le lundi 30 janvier 2012. Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances. Vous entendrez d'abord le président pour l'année 2012, Marianne Bassit-Bruguière, qui présente en le résumant le parcours de Bernard Baraquet.
Monsieur Baraquet est directeur de recherche au CNRS. À l'origine, il est un ingénieur civil formé à l'école de Nancy. Il est également urbaniste diplômé de Harvard. Et il ajoute à ses titres celui de docteur en économie urbaine à l'Université Paris-Dauphine. Il a travaillé au CNRS dans un laboratoire qui s'appelait Technique, Territoire, Société, qui était un laboratoire mixte entre l'École des Ponts et Chaussées, l'Université Paris-Val-de-Marne et le CNRS. Et aujourd'hui, il travaille dans un autre laboratoire du CNRS, qui d'ailleurs a succédé plus ou moins au précédent, qui s'appelle le CIRED, c'est-à-dire Centre International de recherche sur l'environnement et le développement, ce centre étant en partenariat entre l'ensemble Agro-Paris-Tech-Engref, le HESS, le CNRS et également toujours l'École des Ponts et Chaussées. Ce centre a dans ses programmes la prospective et la gestion des ressources en eau sous leurs aspects institutionnels, socio-économiques, juridiques et techniques. En particulier, Monsieur Baraquet a dans ce domaine une très longue expérience. Cette expérience allie à la fois les connaissances techniques et une vision des problèmes dans le sens de la gestion d'une économie durable ou de la mise en place d'une économie durable. Il s'est très tôt intéressé aux politiques de l'eau en Europe. Il a publié en 1995 un livre sur ce sujet qui se signalait par une approche qui alliait les préoccupations culturelles, le respect des rites, des pratiques, l'observation des habitudes humaines, aussi bien que toutes les servitudes liées à l'organisation de l'État dans les différents pays européens. Plus récemment, il a publié un livre qui est le résultat d'un colloque tenu à Cerisy en 2009. Ce livre a un titre magnifique, « Peurs et plaisirs de l'eau ». Et là, la vision s'élargit au-delà de l'Europe, aux visions de la gestion de l'eau dans les civilisations de tous les continents. Monsieur Baraquet est membre de très nombreux programmes internationaux organisés par l'ONU et il a mené des coopérations en particulier au Brésil et en Inde. J'ai donc beaucoup de plaisir, monsieur, à vous prier de prendre la parole et nous vous écouterons avec grand intérêt.
Je vous remercie infiniment, madame, de cette présentation élogieuse. Je ne mérite sans doute pas. Mais c'est vrai que ce qui a caractérisé mon travail, c'est que comme j'étais aux États-Unis juste après avoir fini mon école d'ingénieur, on avait dans cette formation à l'environnement urbain un livre culte sur l'eau de messieurs Knies et Bauer, qui avait été publié en 1968 et dans lequel il y avait un chapitre sur les agences de l'eau. En 68, les agences de l'eau françaises étaient votées par la loi, mais elles étaient encore en pleine préfiguration. C'est vous dire à quel point l'expérience qui avait lieu, qui était en train de se lancer en France, attirait l'intérêt de nos cousins américains. Et c'est aussi ce qui m'a donné une idée. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder la France en étant en France. Il faut aller la regarder comme d'un autre point de vue. Et plus que ça, aux États-Unis, j'étais dans une université où il y avait quand même pas mal d'Européens. Et nous avons eu l'impression que nous avions quelque chose en commun, au-delà de l'amitié qu'on pouvait avoir avec nos collègues universitaires américains, qu'on avait quelque chose en commun, que l'Europe était déjà tout doucement en train de se faire. Donc ça m'a donné l'idée de chercher à travailler à une comparaison des politiques de l'eau. Et puis après, vous savez que les choses se sont élargies. Et au départ, d'ailleurs, on m'a invité pour parler des politiques de l'eau en Europe. que ce soit en Allemagne ou en Angleterre ou en Italie, et puis de plus en plus loin jusqu'au Brésil, comme vous l'avez dit, ou en Inde, où je retourne dans une dizaine de jours pour d'ailleurs monter des programmes de recherche franco-indiens. Mais pour repartir du début de ma présentation, vous savez qu'il y a eu beaucoup de films qui ont été faits sur l'eau, et dans l'un des films les plus connus, on n'a peut-être pas assez vu en France, une série de la BBC qui s'appelait Water Wars, il y avait un des épisodes qui se déroulait au Moyen-Orient et qui se concluait par une interview saisissante qui a fait le tour du monde, hein, du frère du roi de Jordanie, le prince donc Hassan, dont vous m'avez dit, madame, qu'il était notre correspondant ou membre de notre académie, ce qui est tout à fait intéressant. Mais je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit « On s'est battu au 19e siècle pour l'or, on s'est battu au 20e siècle pour le pétrole et on se battra au 21e siècle pour l'eau ». Et je demande, en général, quand je fais mes cours, je commence souvent par ça, en disant mais cherchez l'erreur, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, à votre avis ? Eh bien, la phrase qui est en bas de l'image dit « L'eau est-elle un minerai ?» Donc, je suis d'ailleurs d'autant plus intéressé de remplacer l'homme du métal par l'eau, qui, justement, comme on le voit juste après, l'eau, non, n'est pas un minerai. Et ceux qui en veulent en faire un or bleu, en particulier les altermondialistes, en fait, j'allais dire, je ne l'ai pas écrit, mais ils font un cadeau extraordinaire à ceux qui sont partisans de la privatisation de l'eau et de l'organisation des marchés de l'eau, puisque si c'était de l'or, bien sûr qu'on se battrait pour l'eau. Bien sûr que ça vaudrait très cher, mais justement, ça n'est pas le cas. Et je demande, on m'a dit qu'il y aurait la guerre de l'eau à partir du 21e siècle, et nous voilà déjà engagés depuis 12 ans dans le 21e siècle, et je ne suis pas au courant qu'il y ait particulièrement davantage de guerre de l'eau maintenant qu'il y a 12 ans ou il y a 20 ans. Et par conséquent, je pense qu'on fait beaucoup d'amalgames, de confusions. En particulier, vous avez vu qu'il y a eu des guerres de l'eau de toute antiquité. Enfin, il était courant dans l'antiquité qu'une cité vaincue voit ses systèmes d'irrigation entièrement détruits de façon à ce que la population ne puisse plus vivre, meure de faim ou s'en aille, se mettre en esclavage ailleurs. Donc ça, c'est sûr que ça a été connu. Mais ce qui est beaucoup moins connu, c'est par exemple qu'il y a eu une guerre civile aux États-Unis en Californie en 1930 pour l'eau. Elle est d'ailleurs vaguement évoquée dans le fameux film Chinatown de Polanski. Et puis, vous savez, quand on va en Allemagne et qu'on demande aux Allemands de nous parler de la Ruhr, il est impossible pour eux de ne pas nous montrer les photos des barrages de la Ruhr détruits par les bombardiers anglais en 1943. C'est très sensible pour eux, parce que c'était des barrages qui avaient été faits dans un but civil et qui ont été détruits, bien sûr, parce que la Ruhr était l'un des centres de production de l'économie de guerre allemande et que, voilà. Peu de gens savent également qu'on parle beaucoup de Cochabamba, de la privatisation en Angleterre, mais on a déjà oublié qu'à Barcelone, pendant une année ou deux, 40 000 familles ont bloqué la part assainissement de leur facture d'eau parce qu'ils étaient en désaccord, non pas avec l'entreprise qui distribuait l'eau, mais avec le gouvernement de leur région qui voulait doubler le prix de l'assainissement en y rajoutant des taxes, etc. Donc finalement, il n'y a pas tant de guerre de l'eau que ça, et il faut chercher à comprendre pourquoi. Et la première chose qu'on va dire, c'est, bon, est-ce que l'eau est un minerai ? L'or et le pétrole, oui. Mais l'eau, non, certainement pas, puisque l'eau coule en permanence. L'eau ne peut pas être arrêtée, ne peut pas être enfermée durablement, ou sinon c'est en petite quantité par rapport à l'immensité des ressources qui sont disponibles. Et dans ces conditions, dans la plupart des civilisations, et depuis la plus haute antiquité, comme le rappelait le grand juriste de la FAO italien Dante Caponera, qui avait eu l'occasion d'étudier tous les systèmes juridiques dans le monde, dans son livre sur l'histoire du droit de l'eau, eh bien, presque partout, l'eau, en tant que ressource naturelle renouvelable, est la chose commune de ces ayants droit, qui sont la plupart du temps ses riverains, plus éventuellement quelques autres ayants droit qui ont été admis à bénéficier des services rendus par l'eau, bien que n'étant pas riverains, cela souvent selon des règles définies oralement par des tribus, par les tribus. Et d'ailleurs, une grande partie de notre droit de l'eau européen provient du droit germanique, du droit des tribus germaniques, qui, lorsqu'elles ont envahi l'Europe à la fin de l'Empire romain, ont fait en quelque sorte régresser, ou en tout cas changer, le droit de l'eau en supprimant ce que les Romains avaient inventé, à savoir l'eau publique, d'une part, et l'eau privée, d'autre part. Toute l'eau redevenait, à ce moment-là, chose commune. Bien sûr, il s'agissait surtout des eaux de surface, puisque les eaux souterraines étaient peu connues. Mais
Vous savez, j'ai écrit beaucoup de choses parce que j'ai eu la chance d'aller rencontrer des juristes et des historiens du droit de l'eau dans plusieurs pays européens. Et effectivement, quand on réfléchit un peu, qu'on entend tout ça, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui nous rapproche, nous, Européens, c'est cette tendance à accepter cette idée que l'eau n'est pas une chose qui puisse être possédée, et encore moins propriété, même propriété publique, et à en faire une chose commune qui doit être gérée par l'assemblée de ses ayants droit, escalité. Donc, water boards en anglais, comité de bassin en français, etc. Bien souvent, d'ailleurs, c'est plus compliqué que ça, je n'ai pas le temps de vous faire le détail ici, c'est en partie dans mon bouquin, dont je vous remercie d'avoir fait état, mais il est épuisé depuis 1995, et mon problème, c'est que si je le refais aujourd'hui, je suis obligé de faire 27 chapitres, puisqu'il y a 27 pays en Europe, plus un chapitre sur la politique européenne de l'eau qui, depuis que j'ai écrit mon livre de 1995, est devenue une véritable politique à part entière et mérite un chapitre. Et puis un chapitre, bien sûr, d'analyse, de comparaison, de discussion, des résultats qui m'effraient rien que d'y penser aujourd'hui. Donc, on a donc une ressource naturelle qui est faite pour être utilisée raisonnablement et équitablement, qui par ailleurs pèse très lourd. Une tonne par mètre cube, c'est très lourd. Et donc, normalement, ne se transporte pas très loin. Et il a fallu attendre, en fait, le XXe siècle, à part peut-être les aqueducs de Belgrand au milieu du XIXe, pour Paris, pour aller tirer des tuyaux. Alors, on dirait Los Angeles, San Diego, 1000 kilomètres. C'est très loin. Avant, on n'avait pas le capital nécessaire pour faire ça. Donc, forcément, les problèmes d'appropriation au sens sociologique de l'eau étaient des problèmes relativement locaux ou régionaux. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'il faut faire bien attention de dire si c'est pas un bien, si c'est un bien qui est local et qui pèse lourd, etc., qui ne peut pas être possédé, est-ce qu'il peut devenir ce bien, l'eau, un bien de marché ou bien un bien public pur ? Bien sûr qu'on peut imaginer l'un ou l'autre dans des circonstances très particulières, mais dans la plupart des cas, et c'est ça le travail qui a été fait par, j'allais dire, toute une tradition d'économie institutionnelle qui est proche du droit et de la science politique et qui a abouti, entre autres, au prix Nobel de notre collègue Elinor Ostrom, qui était d'ailleurs à Paris il n'y a pas si longtemps que ça pour qu'on célèbre ce prix Nobel. Prix Nobel d'économie alors qu'elle est prof de science politique. Je veux dire, c'est quand même très intéressant, partagé avec un vrai économiste institutionnel. Voilà, elle a été la personne qui a fait la synthèse de la notion de ressources en commun, common pool resources en anglais, et qui donc est la première forme des biens publics impurs. Alors si on tourne la page, on voit une espèce de quadrangle qui dérive de son travail à elle et du travail à bien avant elle de Paul Samuelson, qui avait eu lui-même le prix Nobel bien avant et qui avait inventé les biens de club. Alors, on va essayer de faire un tout petit approfondissement sur cette question. C'est très simple. Pour Paul Samuelson, pour qu'un bien soit un bien de marché et qu'il puisse être vendu, etc., il ne faut pas une caractéristique, à savoir la rareté, c'est trop facile. Il faut une deuxième caractéristique qui pourtant est évidente, c'est qu'il faut qu'il y ait une propriété. Il faut qu'il y ait un titre de propriété ou de possession, mais dans notre société capitaliste, de propriété, parce que la propriété, c'est plus que la possession. Elle permet de gager le bien pour en obtenir de l'argent et se lancer dans une dynamique d'investissement, n'est-ce pas ? Donc, propriété et capacité d'exclusion. C'est ça que ça veut dire, propriété. Mais il faut qu'il y ait rivalité entre les ayants droit pour que le bien acquiert une valeur par la rareté. Or, dans la plupart des cas, l'eau ne correspond pas à cette double caractéristique. Alors, il y a des gens qui disent, non, au contraire, les altermondialistes disent, la Banque mondiale se trompe, il faut que l'eau soit un bien public mondial. Bon, il n'y a pas de gouvernement mondial, donc c'est très difficile. Mais au moins, dans certains pays, l'eau est-elle devenue un domaine public de l'État dans tous ses éléments ? Je vous ferai remarquer, au passage, que ça a été le cas essentiellement dans les pays soviétiques et, bien évidemment, dans tous les pays qui ont eu un gouvernement autoritaire en Méditerranée, l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar et l'Italie de Mussolini. Bien sûr, il y a plein d'autres pays, après la Deuxième Guerre mondiale, avec la montée en puissance des États-nations qui ont adopté l'idée que l'eau soit un domaine de l'État, une possession exclusive de l'État, ce qui a effectivement permis à ces pays, l'Espagne en tête d'ailleurs, de multiplier les barrages réservoirs en amont des rivières, en chassant les populations des hautes vallées, en les réinstallant en aval et en leur apportant de l'eau pour se transformer en petits paysans irrigants. Mais, en fait, on s'aperçoit que cette prise de possession de l'eau par l'État, qui correspondrait à la notion de bien public pur, n'est pas possible de la mettre en œuvre pratiquement. Parce qu'il faut quand même régler le problème de la rivalité et le problème des possibilités d'exclusion. Alors, pour donner un exemple sur ce que c'est qu'un bien public pur, j'aime beaucoup donner à mes étudiants un exemple tout à fait pacifique, qui est le phare. Le phare au bord de la mer éclaire tous les bateaux. Et le fait qu'il éclaire un bateau ne diminue en rien la luminosité pour le bateau d'à côté. Donc il n'y a pas de rivalité. Et on ne peut pas empêcher un bateau de le voir, sauf quand il passe derrière un bateau qui serait deux fois plus gros que lui. Mais ça ne dure pas longtemps. Donc finalement, là, on voit bien qu'on ne pourra pas demander aux pilotes de bateaux et aux compagnies qui possèdent les bateaux de payer des taxes pour l'entretien du phare. Il va falloir que les États payent cet entretien par leurs fonds publics. Donc encore une fois, si l'eau était un bien public, cela entraînerait que l'État en assure la gestion et couvre ses dépenses en part d'un système d'imposition des citoyens. Et c'est d'ailleurs le cas dans un certain nombre de pays, mais, comme on va le voir, ce n'est pas forcément une bonne idée. Car, en tant que ressource, ce qu'a trouvé Elinor Ostrom, c'est en tant que ressource locale, effectivement, dans les cas où il y a rivalité, mais pas de possibilité d'exclusion, alors on pense immédiatement à une nappe souterraine d'eau dans laquelle n'importe qui peut creuser un puits, ce qui est le cas en France si vous prenez moins de 8 mètres cubes heure, dans la loi. Alors maintenant, on a arrangé ça, les préfets peuvent être plus exigeants par moment, et à certains endroits, quand ils en ont envie, ce n'est pas toujours le cas. Mais vous voyez que c'est très généreux, et finalement, si tout le monde creuse un puits dans une nappe, elle sera forcément vite surexploitée, elle sera vidée, et on risque d'arriver à des situations comme on connaît à Mexico ou dans d'autres endroits, où à force d'avoir surexploité la ressource, eh bien, le sol, qui était une éponge, s'est effondré. Et à Mexico, on est à moins 10 mètres par rapport au niveau d'il y a deux siècles, ce qui provoque des gros dégâts aux monuments historiques. Donc, les ressources en eau, rivalité, mais pas de possibilité d'exclusion, et dans ce cas, l'économiste institutionnel dit il n'y a pas d'autre solution que de mettre en place une communauté des usagers qui va créer une règle instituée qui va devenir contraignante pour tout le monde. Donc, et ensuite, on ne sera pas libre, puisqu'on aura, même si c'est librement qu'on a accepté d'entrer dans cette communauté, on ne pourra pas en sortir. On ne pourra pas dire « ah ben moi je joue plus, je m'en vais ». On sera obligé de respecter la règle. Et cette règle sera une règle d'équité et non pas d'égalité. C'est-à-dire que chaque usager de la nappe ou de l'eau en fait des choses différentes et mérite d'être traité équitablement, mais pas également. Tout à fait différent est l'autre catégorie de biens publics impurs, qui est l'inverse. Celle où il y a possibilité d'exclusion, mais où il n'y a pas de rivalité. Eh bien ça, c'est l'invention, si on réfléchit bien, c'est l'invention des Lumières qui s'appelle le club. Le bien de club, connu des économistes publics, c'est un bien dans lequel il faut payer sa cotisation, mais on n'est pas du tout obligé d'adhérer. Il n'y a pas mort d'homme si on n'adhère pas. Par contre, si on ne paye pas sa cotisation, ben on est exclu. Mais une fois qu'on est dans le club, il n'y a pas de rivalité, puisque le club est fait pour qu'il n'y ait pas de rivalité. Et si on réfléchit un peu, alors je vais très vite évidemment, parce que je parle, moi, pas du club en général, mais d'un club très particulier, qui est le service public de l'eau. Et le service public de l'eau, c'est un club dont on s'est débrouillé pour que tout le monde puisse en être membre avec un coût d'adhésion très faible. Et dans ces conditions, en principe, jusqu'à très récemment, il n'y avait aucun problème. D'ailleurs, personne ne se rendait compte vraiment qu'il y avait une facture d'eau à payer. On prenait l'eau qu'on voulait, etc. Mais dans tous les pays développés, et depuis, on va dire, un siècle et demi, on a pris l'habitude progressivement de couvrir les coûts du club, non pas par des taxes ou par des forfaits, mais par un paiement au volume, qui donne parfois l'illusion à certains, surtout quand c'est Veolia ou Suez qui distribue l'eau, que l'eau est devenue un bien de marché et que cette marchandise est quelque chose de totalement imbuvable, disent-ils. Alors là, c'est là qu'ils se trompent, ses collègues, souvent, c'est parmi mes collègues, ils se trompent parce que l'eau n'est pas une marchandise, même si vous payez une facture d'eau. Elle reste un bien de club. Et on en a une illustration très claire en ce moment, parce que dans beaucoup de villes de pays développés, la consommation d'eau diminue depuis 15 ans. Et dans ces conditions, la consommation d'eau diminuant, eh bien, pour équilibrer les comptes, les gestionnaires sont obligés d'augmenter le prix unitaire. Et donc, vous voyez les gens à qui on a dit « faites des économies d'eau ». Et puis après, ils payent plus cher. Mais c'est extrêmement difficile à leur expliquer pourquoi. Alors là, je m'en suis fait une spécialité, puisque moi, comme je suis au CNRS et que je suis en sciences de l'homme, je ne suis pas supposé marcher, rouler de concert avec Suez ou Veolia ou avec les régies publiques. Et donc, c'est important de dire ça. Donc, je vous disais qu'il y a deux types de biens publics impurs. Que le premier bien, celui, les ressources en commun, ça concerne les ressources en eau, le partage des ressources en eau. Les biens de club, ça concerne l'eau, en fait, comme service public. Mais vous comprendrez tout de suite que dans les pays du tiers-monde, où la couverture des villes et surtout des campagnes par les services publics est loin d'être achevée, vous avez donc une partie de la population qui n'a de rapport à l'eau qu'en tant que ressource naturelle. Et par conséquent, pour ces gens-là, la gratuité de la ressource, qui est inscrite culturellement dans pratiquement toutes les cultures de l'humanité, est un principe sacré. Ce qui n'est pas correct, c'est de la part des altermondialistes de prendre appui sur cette situation d'inaccès, de non-accès à l'eau d'une partie du peuple du tiers-monde pour dire qu'il faudrait une forme de gratuité dans les pays développés aussi. Alors que dans les pays développés, on est dans une situation de club où, finalement, il faut trouver des moyens dans le respect de l'égalité d'accès et de la continuité d'accès, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir l'eau, quitte d'ailleurs, si c'est trop cher, à ce qu'on réintroduise, on en discute actuellement, mesdames et messieurs, des subventions. Alors qu'on était parti depuis 40 ou 50 ans dans l'idée « l'eau paye l'eau ». Donc j'espère que vous avez bien compris, je vais passer discrètement sur l'image suivante que vous lirez, car elle raconte comment j'en suis arrivé là, et je reviens à l'histoire de la ressource, puisque c'est un peu ce que Madame la Présidente, je m'avais demandé d'écrire. Allons-nous manquer d'eau ? Souvent, on me pose cette question. Les journalistes sont très inquiets. Je suis très, très embêté de vous dire que non, on ne va pas manquer d'eau. D'abord, il y a les océans et on sait dessaler l'eau de mer. Manque de chance, ça coûte très cher. C'est-à-dire, on peut dessaler de l'eau de mer à San Diego ou même en Israël. Et il y a 60 usines de dessalement sur toute la côte est de l'Espagne. Par contre, dessaler l'eau de mer dans la bande de Gaza, ce n'est pas possible, sauf si on paye l'eau pour les Palestiniens, parce qu'eux n'ont pas les moyens de payer l'eau à ce prix. Donc, il y a vraiment une situation assez compliquée et ambiguë. Et surtout, le problème, c'est que les hommes et les femmes de la planète ont tendance à s'agglutiner dans des régions où il y a du soleil, mais pas forcément d'eau. Pensez à la Californie du Sud qui a atteint le sommet de ce qu'elle pouvait faire avec l'eau et donc est obligée de faire de gros efforts d'économie. Simplement, finalement, les pénuries ou les inondations, on va dire, sont des phénomènes locaux. Et par conséquent, il faut s'en occuper localement, mais il faut s'en occuper d'autant plus que ce sont des phénomènes qui risquent d'être aggravés par le changement climatique. Je vais y revenir dans un instant. Vous voyez d'ailleurs, pour conforter ce que je dis, que l'eau disponible sur la planète, c'est, vous voyez, 1 milliard 350 millions de kilomètres cubes d'eau. Si vous mettez ça en litres, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, je vous en fais grâce. Mais tout ça, c'est salé. Si on descend à ce qui est de l'eau douce sur la planète, dans les glaciers, vous voyez, 27 500 000 km3, les eaux souterraines, dont une grande partie n'est pas en fait exploitable, c'est plutôt 8 200 000 km3. Alors là, j'ai mon joker, la personne de Guylaine Marcelli, qui va me dire si mes chiffres ne sont plus à jour, si s'est passé quelque chose. Mais on dit, l'eau va disparaître. Mais attendez, mais c'est incroyable qu'on puisse penser une seule seconde, elle ne va pas disparaître. Ou alors, ça veut dire qu'elle partirait dans le cosmos. Sinon, elle va toujours rester là. Le problème, c'est que, elle ne va pas forcément être aussi facilement exploitable. Pensons tout simplement à toutes ces... Je pense à La Paz en ce moment. Voilà. J'étais à La Paz, j'ai vu le glacier de la très haute montagne qui est juste à côté de La Paz, et on m'a dit, vous voyez, jusqu'avant, le glacier, il venait jusqu'au captage d'eau. Et donc, on récupérait dans le captage de La Paz de l'eau qui sortait directement du glacier. Maintenant, le glacier a reculé de 3 km, et donc l'eau ruisselle sur les sols, et là, il y avait des mines d'argent des Espagnols, et par conséquent, aujourd'hui, on s'empoisonne avec des métaux lourds qui ruissellent, qui s'infiltrent dans cette eau de ruissellement. Voilà. Voilà un problème parmi mille qu'on peut trouver sur la planète. En face de cette eau disponible, l'écoulement à moyen annuel facile à exploiter, le plus facile, 40 000 km3, et en fait 10 000 si on enlève les crues. Alors, les crues, si vous pouvez les arrêter, c'est très bien, mais si vous ne pouvez pas les arrêter, c'est très bon pour l'écosystème, les crues, mais ce n'est pas pour nous. Et en face, 70% de la demande mondiale, en gros, c'est pour l'agriculture. Et la grande question, c'est, est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça ? Bon, en gros, on exploite, je veux dire, l'agriculture, c'est 70% du tiers des ressources facilement exploitables. Donc, on est quand même assez loin d'une crise mondiale majeure. Sauf que, bah, localement, je vous dis, ça ne va pas. Dans la thèse qu'a faite mon jeune doctorant, il n'y a pas longtemps, Raphaël Josan, à l'École des Ponts, qui, lui, parce qu'il parlait russe couramment, donc il a pu aller en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, pour raconter toute l'histoire de ce qui se passe en amont de la mer d'Aral. Bon, c'est clair que c'est le coton soviétique, plus un certain nombre de plantes, comme du maïs, non déclarées et n'apparaissant pas dans les statistiques officielles, et qui expliquent cette situation d'assèchement complet de la mer d'Aral. Vous lirez éventuellement, quand il aura fini son livre, il a eu le prix de la thèse du monde, donc normalement, il est obligé de faire un livre à partir de cette thèse. Faut-il 1500 mètres cubes d'eau par personne et par an? C'est ma collègue suédoise, grande hydrologue, Malin Falkenmark, a inventé cet indicateur. On divise, on prend la pluie et l'efficace qui tombe, c'est-à-dire la pluie efficace, c'est la pluie qui tombe, moins ce qui s'évapore tout de suite ou rapidement, par le simple fonctionnement de la nature, l'absorption des plantes, etc. On rajoute l'eau qui rentre d'un pays amont, quand il y en a, on divise le total par la population et on obtient un chiffre. Si le chiffre est en dessous de 1000, bah Malin Falkenmark tendait à dire « ça risque la guerre de l'eau ». Et moi, j'ai toujours répondu « mais attendez ». Ça, c'est le point de vue de l'hydrologue. Mais le point de vue du chercheur en sciences sociales, c'est pas du tout ça. C'est combien je bois, moi, un mètre cube, en gros, par an. Pour vivre, je suis européen, il m'en faut 50. Et encore, ça diminue. En Allemagne, c'est 35. Voilà. Aux Pays-Bas aussi. En France, on est descendu à 40. En moyenne, les Européens, c'est un peu plus, mais bon. Un Américain, c'est 3 à 4 fois plus. Parce qu'ils ont des chasses d'eau qui n'arrêtent pas de couler. Ils ont des douches qui sont des cataractes. Ils ont des machines à laver à chargement par au-dessus. Et vous savez, mesdames, que les chargements par au-dessus consomment beaucoup plus d'eau que les chargements frontaux. Donc oui, le chargement frontal fait que la lessive trempe dans très peu d'eau. Et on a inventé ça tout simplement pour consommer moins d'électricité, mais ça marche aussi pour l'eau. Ça, c'est bien connu. Et nous, en Europe, on n'a plus que des machines à chargement frontaux depuis longtemps. Les Américains sont seulement en train de s'y mettre. Bon, donc ils consomment plus. Mais tout ça, bien compris, je veux dire, 300 mètres cubes au maximum pour un Américain, on est loin des 1000 mètres cubes. Puis en plus, aux États-Unis, ils ont quand même beaucoup d'eau, puisqu'ils sont moins nombreux par kilomètre carré, en moyenne, sauf dans les très, très grandes villes. Alors bon, par contre, là où on arrive au point crucial, c'est que la tonne de blé, elle a besoin de 1000 mètres cubes d'eau pour pousser. Si, dans un pays tempéré comme le nôtre, comme dans la Beauce, normalement, il n'y a pas besoin d'eau, le blé, il pousse tout seul. Si aujourd'hui, on irrigue, c'est simplement parce que les grandes sociétés qui exploitent le blé dans la Beauce veulent bien faire quelques 10 ou 20 quintaux de plus en irriguant juste quand il faut, comme il faut. Et d'ailleurs, rien que ça, ça pose de graves problèmes à notre nappe de la Beauce. Et c'est pour ça qu'on fait une gestion intégrée qui se met en place difficilement. Mais en tout cas, s'il ne pleut pas du tout comme en Arabie Saoudite, ben il faudrait importer toute cette eau. Ben excusez-moi, mais les Saoudiens, il y a longtemps qu'ils ont compris, mais ils ont toujours compris que ça coûtait moins cher d'acheter des poulets qui ont été élevés en France ou ailleurs, ou du maïs ou du blé d'ailleurs, plutôt que de faire pousser chez eux des produits qui exigeraient beaucoup d'eau. Il vaut mieux transporter une tonne de poulet que 10 000 ou 5 000 mètres cubes d'eau qui sont 5 000 tonnes, n'est-ce pas? Et alors surtout, il faut retenir ça. Moi, j'aurais fait cette conférence il y a 5 ou 6 ans. Je n'aurais pas été capable de vous parler du dessalement de l'eau de mer parce que j'avoue que je n'y croyais pas. Mon Dieu, c'est trop cher, etc. Et en l'espace d'à peine quelques années, la planète est en train de se couvrir d'usines de dessalement. Certes, avec un coût énergétique très élevé. Mais il y a quelque chose de très nouveau qui va certainement changer la donne dans beaucoup d'endroits. En France, nous n'avons pas de problème. En gros, vous avez les chiffres qui sont montrés là. La quantité d'eau que nous prenons est très très faible par rapport aux ressources disponibles. Et même si on ajoute l'eau qui est utilisée pour refroidir les centrales thermiques classiques et nucléaires, qui est une eau qui est rendue au milieu après avoir été réchauffée, c'est 20 km cubes, on est très loin du total. Seulement voilà, eh bien maintenant, depuis plusieurs années, on s'aperçoit qu'on a été trop loin dans l'encouragement au maïs, non pas du tout dans la région méditerranéenne où on a le Rhône, qui est aujourd'hui la rivière qui apporte le fleuve, qui apporte le plus d'eau à la Méditerranée, d'eau douce, mais en Adour-Garonne, dans notre beau pays, et oui, notre beau pays, on est certainement nombreux, et en Poitou-Charentes, en particulier donc dans les Deux-Sèvres, où il y a 2 ans ou 3 ans, la ville de Niort pensait qu'elle n'allait plus avoir d'eau, parce que tout avait été consommé par les agriculteurs. Alors, il a fallu organiser des systèmes d'échange. Donc, notre principal problème en France, c'était un problème de pollution. Et même si on y reviendra peut-être dans la discussion, Je crois que si nous avons créé les 6 agences de l'eau, qui sont des organismes de bassin versant, c'était parce qu'on avait des problèmes de pollution assez graves et, accessoirement, dans un ou deux endroits, un risque de pénurie d'eau en été. Et c'était, pas du tout dont je vous ai parlé à l'époque, dont je viens de vous parler, à l'époque, c'était dans la Seine, à cause de Paris, qui est une ville multimillionnaire qui est beaucoup trop grosse par rapport au petit débit de la Seine en été, surtout si on rajoute une centrale nucléaire en amont à Nogent-sur-Seine, et qui, elle aussi, a besoin d'eau pour se refroidir, et sur la Loire, où là, il y a 5-6 centrales nucléaires, et où il fallait faire ces barrages réservoirs en amont pour que EDF puisse faire tourner ses centrales en été. Et pas du tout pour protéger les gens contre les inondations, qui est d'ailleurs un argument qu'on a ensuite avancé et qui a permis aux maires des grandes villes comme Tours et Orléans de donner des permis de construire en zone inondable, alors que finalement, ces barrages ne servent pas à protéger contre les crues historiques comme celles qui se sont produites en 1846, 56, 66. N'est-ce pas, Guilain ? Nous avons eu ces problèmes-là. Donc on a créé nos agences de l'eau pour régler des problèmes exactement de gestion partagée de l'eau, c'est-à-dire essayer de moins polluer, d'accumuler plus de réserves, donc choisir la technologie du traitement de la pollution, du stockage de l'eau en amont, pour retarder dans le temps et dans l'espace le moment des rivalités les plus dures. Sauf que ce qui est passionnant, c'est que cette réforme a été faite en 64. On était en plein dans la réforme régionale voulue par le général de Gaulle à l'époque. Et je vous signale que sur la réforme régionale, il y a eu d'excellents travaux qui ont été faits, notamment la fameuse thèse de Pierre Grémion chez Crozier sur la réforme régionale et son échec à l'époque devant la résistance de ce qu'il appelait le couple préfet notable ou le pouvoir périphérique. Bon, il en a fait son bouquin, la thèse est de 72, le bouquin est de 76, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais ça reste un bouquin excellent à lire. Simplement, de toute cette réforme régionale, on pourrait dire ce qui est resté, parce que c'était une institution totalement atypique, ce sont les agences de l'eau qui ont prospéré, qui aujourd'hui, je vous le rappelle, roulent sur un budget annuel cumulé pour les 6 agences de 2 milliards d'euros, ce qui provoque l'irritation permanente de notre ministère des Finances, qui jusqu'à la loi de 2006 voyait une assez grosse quantité d'impôts, certes très faible par rapport à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, mais quand même la plus grosse quantité d'impôts qui lui échappait. Alors, est-ce que c'était des impôts ? Moi, je prétends que non. Le Conseil d'État a prétendu que non, mais le Conseil constitutionnel a fini par dire que oui. Alors, là-dessus, il faudrait qu'on en rediscute. C'est une affaire très longue, mais les agences de l'eau ont été créées pour régler des problèmes de travaux d'intérêt commun, me disait un des ingénieurs des corps des mines, qui a été un des premiers directeurs d'une des 6 agences de l'eau. Et les travaux d'intérêt commun correspondent à savoir les biens publics impurs de type ressources communes, dans lesquelles on doit réunir les usagers de l'eau S-qualité dans un comité de bassin pour tenter de trouver une règle de partage et de mutualisation. C'est ainsi que, lorsque les économistes de mes collègues, de mes propres collègues, attaquent les agences de l'eau en disant « ce n'est pas le principe pollueur-payeur, c'est le principe pollueur-sociétaire », voulant tourner en ridicule la mutualité des agences de l'eau, ils ont deux fois faux. Ils ont une première fois faux parce que c'est précisément en imitant les Allemands de la Ruhr, 100 ans après ou 60 ans après, que nous avons créé des systèmes de gestion de l'eau durable par bassin versant, selon des principes de mutualité qui ont toujours fonctionné dans la Ruhr et qui sont un exemple pour le monde entier, que nous avons en fait transformé en changeant d'échelle, n'est-ce pas ? Et en plus, ils ont faux parce que ils ont l'impression que la gestion mutuelle n'est pas efficace alors qu'elle l'est. Et sinon, Elinor Ostrom n'aurait pas eu le prix Nobel. Je passe rapidement sur les pays au climat méditerranéen qui, compte tenu de la variabilité de la pluie, du climat, ont tendance à régler leurs problèmes, ont toujours eu tendance, surtout avec l'aide des Américains. En Espagne, ce sont les Américains qui ont payé les barrages, les 1000 barrages réservoirs construits en Espagne sous Franco. Et c'est maintenant que l'Espagne est sortie de cette époque pour rentrer dans la démocratie et dans l'Union européenne que l'argent est redirigé désormais non plus vers des grands transferts et des barrages, mais vers l'amélioration des services aux citoyens, comme le Portugal d'ailleurs. Cela dit, pendant très longtemps, l'idée qui a été portée d'abord par les Américains, très vite relayée par les Soviétiques, c'était l'idée que le développement économique doit aller de pair avec la mobilisation nationale des ressources en eau. Et ayant gagné la Deuxième Guerre mondiale, je ne peux pas d'ailleurs ici ne pas
vous recommander de lire un livre que, si j'avais le temps, je traduirais, je m'arrêterais de tout faire pour traduire en français. C'est de Timothy Mitchell. Ça s'intitule « Rule of Experts », sous-titré « Egypt, Technopolitics and Modernity ». C'est un livre extraordinaire qui raconte l'histoire, l'odyssée du capitalisme, depuis le début, à travers l'histoire spécifique d'une colonie qui devient un État-nation en relation avec la Banque mondiale, le FMI et le système mis en place par les Américains, avec toutes les catastrophes qui en découlent. Et je dois dire que si c'est incroyable, quand on lit ce bouquin, on a l'impression qu'on a compris qu'il allait se passer ce qui s'est passé avec la chute de M. Moubarak. En tout cas, dans ces pays, on a voulu une politique nationale de l'eau supposée permettre, je veux dire, les Égyptiens rêvent qu'ils vont doubler leur production de coton. Mais ils n'auront jamais l'eau pour faire ça. Jamais. Donc ils pourraient faire, si on ne les arrête pas, des investissements inutiles. Inutiles et dramatiquement coûteux, en plus. Et mauvais pour l'environnement. Donc, de cette situation où on faisait, à la suite des Américains, une politique de mobilisation des ressources en eau, essentiellement pour l'agriculture, mais payée par les autres usagers de la ressource, à savoir les villes et l'industrie, qui ont les moyens de payer, eh bien, on s'est complètement trompé. Et de surcroît, on n'a pas permis aux petits paysans des régions pauvres, comme au Maroc, de se nourrir correctement avec l'eau. La Californie est le symbole de ce modèle. Et il est aussi le symbole de sa remise en cause. En Californie, c'est depuis les années 1960 qu'on a dit « on arrête les barrages ». On va gérer l'eau autrement, on va faire une politique de gestion par la demande, c'est devenu un slogan mondial. Alors, de ça, je suis amené à vous parler maintenant un tout petit peu de la notion de water security, de sécurité hydrique. Car c'est une notion qui est apparue comme d'actualité. Certes, on a commencé à parler de ça comme par hasard après les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours de Manhattan. Quand je pense que j'y étais juste 6 mois avant les tours pour justement discuter de la gestion durable de l'eau, c'est quand même assez impressionnant. Et alors évidemment, tout le monde a pensé, mais demain, les terroristes vont mettre des poutres de perlimpinpin nauséabondes dans nos services d'eau, dans nos réservoirs, et on va tous mourir empoisonnés. Ça, c'était le début. Mais très vite, il y a des gens qui ont commencé à dire, d'accord, mais si on avait une politique moins injuste vis-à-vis du tiers-monde, on aurait moins de terrorisme. Donc ce qu'il faut, c'est aider le tiers-monde à se développer avec l'eau. Et puis derrière, eh ben, vous avez d'ailleurs 2 définitions de la notion de sécurité hydrique, dont moi je garde celle de ma collègue Karen Bakker, accès durable à l'échelle du bassin versant à des quantités adéquates d'eau de qualité acceptable pour assurer la santé publique et celle de l'écosystème. Alors là, il y a une grande nouveauté. On n'y pensait pas il y a encore 20 ans. Mais maintenant, dans la loi européenne sur l'eau, l'écosystème, les poissons, les micro-organismes, le milieu aquatique ont la priorité, même sur nous, les humains. Ça, c'est dans le droit. L'application du droit, c'est pas si facile. Le vrai problème de cette sécurité hydrique, si vous voulez, c'est, bien sûr, il y a les terroristes. Mais notre plus gros problème, et les Européens sont capables de s'en rendre compte déjà, c'est le changement climatique qui va aggraver les phénomènes extrêmes, sécheresse, inondation, et qui va nous forcer à rendre nos villes plus résilientes. Et je vais donner 2 exemples. À New York, on est préoccupé par l'aggravation de la violence des pluies, alors qu'à Paris, on est préoccupé par des sécheresses qui dureraient au-delà du mois d'août, sans orage, en septembre et en octobre. Ce qui fait qu'à ce moment-là, nos barrages en amont de la Seine seraient vides. Par rapport à ça, finalement, quand on dit water security, on dit gestion durable, équilibrée, entre les hommes et la nature, on doit faire les choses ensemble, etc. Eh bien, tout cela, ça a mis, j'allais dire, 25 ans, puisque la première directive européenne sur l'eau date de 1975, et la directive cadre, qui est notre grande loi cadre sur l'eau européenne, est de l'an 2000. Donc, je vous dis, il y a eu des tas de directives qui ont visé essentiellement la santé publique sur laquelle la Commission européenne était compétente au début, alors qu'elle n'était pas compétente sur l'environnement, et l'égalité de la concurrence, donc les industriels pollueurs. Et c'est seulement à partir des années 90 qu'on a échafaudé des directives qui visaient la pollution rejetée par les villes et par l'agriculture. Et puis face à la complexification progressive et la volonté de passer, c'est très important, passer d'une réglementation des rejets polluants des uns et des autres à une réglementation qui fait partir la loi de la qualité voulue du milieu. Et j'ai déjà proposé qu'à l'Académie française, on adopte un néologisme qui est la notion d'émission. On avait des normes de rejet qui sont des normes d'émission, de même que les normes d'eau potable, d'eau du robinet, sont des normes d'émission de la mauvaise eau ou de la bonne eau dans le corps humain,
de normes d'émission, et nous nous devons nous tourner de plus en plus, pour des raisons de rationalité de gestion publique, vers des normes d'émission, c'est-à-dire qui visent la qualité, la santé publique elle-même, pas les polluants que nous buvons, et qui visent la qualité du milieu aquatique lui-même. C'est un renversement de perspective qui est celui de la directive cadre et qui pousse à changer considérablement. J'ai mis une page là-dessus que vous lirez avec intérêt, je pense, par rapport à ça. Donc on doit remplacer, si vous voulez, notre histoire européenne aujourd'hui, alors que l'Europe s'est couverte de stations d'épuration pour les villes, qu'on a beaucoup de mal à lutter contre la pollution diffuse, c'est de renverser la politique pour dire on veut un milieu de telle qualité, eh bien, trouvons les moyens d'abord territorialement et recourons à la technologie quand on ne pourra pas faire autrement. J'ai mis une image sur le projet de recherche qui me fait travailler en ce moment. Parce que là, je vous ai parlé, avec beaucoup d'intérêt, de la gestion des ressources en eau dans le monde. Mais ce qui me soucie beaucoup aujourd'hui, et j'ai toujours travaillé là-dessus, c'est la durabilité des services publics. Je vais vous donner un exemple. Dans cette ville où nous sommes, la consommation d'eau par habitant a diminué de 28% depuis 1991. 28%, rendez-vous compte, c'est considérable. Non pas, en soi, on dirait, c'est une excellente idée. On veut moins tuer la Seine. Oui, sauf que eau de Paris, qu'elle soit d'ailleurs privée ou publique, ben, ça veut dire que ça fait 28% de recettes en moins. Et 28% de recettes en moins, alors que la loi oblige tous les distributeurs d'eau et les autorités distributrices à équilibrer leurs comptes. Donc, si on diminue la consommation, à court terme, on augmente le prix. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et, comme par hasard, à cause de l'espèce de boomerang qui s'est passé dans les pays du tiers-monde, nous recevons maintenant des informations comme quoi des Parisiens, des Français, des Allemands n'arrivent plus à payer leurs factures d'eau. Et donc, il faut qu'on s'en occupe. Alors que faire ? Leur faire des volumes gratuits ? Mais ça va faire des systèmes tarifaires qui sont des usines à gaz qui coûteront encore plus cher à administrer que l'avantage qu'ils apporteront à ces plus démunis. Donc, que faire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je travaille sur ce projet, sur ce programme de recherche financé par l'ANR avec 6 autres équipes françaises. Donc, c'est la durabilité. Est-ce qu'on a les moyens d'entretenir notre infrastructure ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme effort supplémentaire pour faire face à la santé publique et à l'environnement à moindre frais, mais en améliorant les performances ? Est-ce que nos services sont équitables, bien qu'ils soient égalitaires, puisque ce sont des services publics ? Est-ce qu'ils restent équitables ? Et est-ce qu'il ne faut pas corriger la règle un peu brutale de l'égalité par des approches d'équité, c'est-à-dire de l'eau moins chère pour les plus démunis ? Comment faire ? Et finalement, on tombe toujours, quand on fait un peu de recherche sur les institutions et sur les politiques publiques, sur le fait qu'une partie des solutions viendront de la réorganisation d'une part des services d'eau à d'autres échelles, les échelles que nous connaissons, qui sont souvent municipales ou intercommunales, et éventuellement donc des échelles plus élevées, vers le département par exemple, où beaucoup de départements aujourd'hui sont impliqués dans la gestion des services d'eau au-delà de leur politique de gestion des ressources, et ou alors à une échelle infralocale où des gens d'un quartier s'organiseront pour autoproduire une partie de leur eau. Ça commence à arriver en Allemagne, et moi, ça m'effraie, puisque finalement, quand je vais en Inde, à Delhi, je m'aperçois que la service d'eau, il dépend du quartier où on habite. Il y a des quartiers où les gens n'ont rien. Et donc, si nous, on commence à faire ça et qu'on détruit la solidarité qui s'était construite avec le municipalisme, la gestion municipale de l'eau, qu'allons-nous devenir ? Est-ce qu'on va avoir des services d'eau comme à New Delhi ou pas ? Voilà des questions qui me paraissent très utiles. Et vous avez un blog qu'on a créé où il y a beaucoup d'informations sur la durabilité des services d'eau en France et en Europe. J'en conclurai en parlant finalement de qu'est-ce qui est resté. Qu'est-ce qui me reste quand j'arrive à la fin de ma carrière et j'ai travaillé pendant 30 ans sur les politiques de l'eau en Europe ? Eh bien, je dirais plusieurs choses. D'abord, longtemps avant les autres, de fait, et sans qu'ils soient capables de l'expliciter véritablement, les Européens sont sortis du débat public-privé qui a agité le monde dans les années 90-2000 et qui continue en partie à l'agiter, bien que ça se calme un peu. L'Europe en est sortie, d'une part parce qu'elle a effectivement, et la directive cadre en est l'achèvement, accepté cette idée que l'eau n'est plus un bien appropriable, mais seulement un bien à utiliser raisonnablement et équitablement dans le partage entre ses usagers, et que par ailleurs, l'Europe a compris que les services publics, pour être bien gérés de façon durable, doivent faire un dosage extrêmement subtil de qualité privée et de qualité publique pour pouvoir satisfaire un certain nombre de critères. Bien souvent, en Europe, pratiquement sur tout le continent européen, toutes les infrastructures des services d'eau et d'assainissement sont publiques, et ce n'est que le service qui, éventuellement, est délégué à une entreprise privée. Voire, dans certains pays, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, l'Italie du Nord, la Suisse, les collectivités publiques ont créé leurs propres entreprises privées qui distribuent l'eau. Pourquoi ? Parce que la comptabilité privée est plus avantageuse dans beaucoup de cas de figure que la comptabilité publique. Mais étant allé au-delà du débat public-privé, les Européens étaient tout prêts à accueillir, pour les ressources en eau, j'y reviens, les Américains, dès que ceux-ci ont décidé d'abandonner la détestable doctrine Harmon, du nom du sénateur qui, à la fin du XIXe siècle, avait dit « Il pleut chez nous, donc on est bien gentil d'en laisser un peu aux Mexicains. Mais c'est nous qui décidons combien. » C'est la doctrine de la souveraineté absolue des pays amont. Par rapport à cette doctrine qui est toujours en vigueur en Chine, en Turquie, par exemple, qui ne veulent pas accepter de partager raisonnablement, par principe, l'Euphrate, le Tigre et le Mékong pour la Chine, eh bien, nous avons en face un pays comme l'Égypte qui dit « Ah, nous, on est une ancienne colonie anglaise, donc chez nous, ce qui s'applique, c'est le droit riparien qui dit « On peut l'utiliser, l'eau de la rivière, mais on doit la rendre comme on l'a pris, en quantité, en qualité, sinon on doit demander la permission au pays aval. » Alors évidemment, pour les Égyptiens, comme ils sont les derniers sur le Nil, ça les arrange. Vous voyez, eh bien, nous, on est au-delà de ça. Et quand les Américains ont abandonné cette doctrine détestable pour dire, finalement, on va essayer de faire un partage de l'eau avec les Mexicains, pour le Canada, c'était toujours une commission très équitable qui partageait, qui réglait les litiges. Bon, dès que ça a été fait, les juristes du droit américain, je pense en particulier à un célèbre juriste qui est très, très bon, qui s'appelle Joey Della Pena, on l'a rencontré, il est venu en France, il a vu mon collègue Jacques Cirono, qui est le juriste de la direction de l'eau. Et ils ont travaillé ensemble et on a sorti, petit à petit, les quelques articles de la Convention des Nations Unies de New York, 97, qui parle de la gestion raisonnable et équitable des eaux internationales, des rivières internationales, à des fins autres que la navigation. Sachant que la navigation sur les rivières internationales était en principe réglée par une convention qui date de 1815, donc de l'immédiat après échec de Napoléon. Voilà un peu ce que j'avais l'intention de vous raconter, mais en vous rappelant bien que ce que je vois se passer au niveau international se passe à l'intérieur des pays. En fait, les conflits pour l'eau sont beaucoup plus fréquents à l'intérieur d'un pays, mais en même temps, il est possible de les résoudre en mettant en place des commissions d'usagers de l'eau. Et pour les services publics, c'est évident que le temps du municipalisme qui permettait aux gens de tourner leur robinet, d'avoir de l'eau et de se plaindre quand il n'y en avait pas, mais surtout de ne pas savoir d'où elle venait ni où elle allait quand elle sortait de chez eux, ce temps est bientôt révolu et on va aller vers des gouvernances beaucoup plus compliquées, mais sans doute beaucoup plus productives politiquement. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Bernard Baraquet. Le texte de sa communication est disponible sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr. Dans cette même série de communications pour l'année 2012, série intitulée par le président Marianne Bacille Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel », vous pouvez aussi écouter une communication d'Henri Léridon, démographe, correspondant de l'Académie des sciences, sur les perspectives mondiales de la population, Didier Julienne sur les métaux et terres rares, et Pierre Gadonnec sur les ressources mondiales en énergie.